Spinoza, Traité politique, chapitre 9. Paragraphe 1. Nous avons parlé jusqu'ici de l'État aristocratique en supposant qu'il tire son nom d'une ville unique, capitale de tout l'État. Il est temps de traiter d'un État où plusieurs villes se partagent le pouvoir, condition que je crois préférable. Mais pour apercevoir la différence qui existe entre ces deux États et la supériorité de l'un d'eux, nous passerons en revue les principes de l'État précédemment décrit. Nous rejetterons ceux qui ne conviennent plus et nous les remplacerons par d'autres. Paragraphe 2. Les villes, donc, qui jouissent du droit de cité, devront être fondées et fortifiées de telle façon qu'aucune ne puisse à la vérité subsister sans les autres, mais qu'en revanche, elle ne puisse sans grand dommage pour tout l'État se détacher des autres. De la sorte, en effet, elles resteront toujours unies. Les villes, constituées de telle façon qu'elles ne puissent ni se conserver, ni inspirer de crainte aux autres, ne sont pas autonomes, mais dépendantes des autres. Paragraphe 3. Les principes énoncés au paragraphe 9 et 10 du chapitre précédent sont tirés de la nature commune de l'État aristocratique. Il en est de même du rapport devant exister entre le nombre des patriciens et la masse du peuple, de l'âge et de la condition des personnes appelées aux patriciens. Il ne peut donc y avoir de différence qu'une ville ou plusieurs soient à la tête de l'État. Mais autre est la situation de l'Assemblée suprême. Si une ville, en effet, doit être le lieu de réunion de cette Assemblée, cette ville sera en réalité la capitale de l'État. Il faut donc, ou bien que chacune ait son tour, ou choisir un lieu qui n'ait pas le droit de cité et appartient également à tous. Mais ces deux solutions sont plus faciles à énoncer qu'à mettre en pratique. Comment faire pour que tant de milliers d'hommes se transportent loin des villes ou se réunissent, tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre? Paragraphe 4. Voici sur quelles considérations il faut s'appuyer pour décider droitement, selon la nature et la condition de l'État aristocratique, comment il faut procéder en cette matière et en quelle manière les assemblées et les conseils devront être institués. Une ville a un droit supérieur à celui d'un particulier dans la mesure où elle a plus de puissance que lui, par le paragraphe 4 du chapitre 2. Et en conséquence, chacune des villes de l'État, voire le paragraphe 2 de ce chapitre, renfermera dans son enceinte ou dans les limites de sa juridiction, autant de droits qu'elle a de pouvoir. En second lieu, il ne s'agit pas de villes simplement liées par un traité, mais de villes unies et associées formant un seul État, sous cette condition toutefois que chacune d'elles ait, dans la mesure où elle est plus puissante, plus de droits dans l'État, car vouloir établir l'égalité entre les inégaux, c'est absurde. Les citoyens peuvent être égaux, parce que la puissance de chacun, comparée à celle de tout l'État, ne mérite pas considération. Mais la puissance de chacune des villes forme une partie de la puissance de l'État entier, et une partie d'autant plus grande que cette ville est plus importante. On ne peut considérer les villes comme égales, mais il faut évaluer le droit de chacune d'après sa puissance et sa grandeur. Les liens, d'autre part, qui doivent les lier pour qu'elles constituent un même État, sont en premier lieu le Sénat et la Cour de justice, par le paragraphe 1 du chapitre 4. Je vais montrer ici, brièvement, comment toutes les villes doivent être liées tout en restant autonomes autant qu'il se peut. Paragraphe 5. Je conçois donc que les patriciens dans chaque ville, plus ou moins nombreux, par le paragraphe 3 de ce chapitre, suivant la grandeur de la ville, aient un droit souverain, que, réunis dans une assemblée suprême, propre à cette ville, ils aient le pouvoir absolu de décider des fortifications à élever, de l'élargissement des enceintes, des lois à édicter ou à abroger, et d'une manière générale, puissent prendre toutes les résolutions nécessaires à la conservation et à l'accroissement de la ville. Pour traiter des affaires communes de l'État, il sera créé un Sénat dans les mêmes conditions que nous avons vues au chapitre précédent. À cette différence près que dans ce nouvel État, le Sénat aura le soin de régler les litiges pouvant s'élever entre les villes. Car, n'y ayant pas de capitale, ces litiges ne peuvent plus être réglés par l'Assemblée suprême de tous les patriciens. Voir le paragraphe 38 du chapitre précédent. Paragraphe 6. Au reste, cette Assemblée générale n'aura pas à être convoquée, à moins qu'il n'y ait à réformer l'État lui-même, ou dans une affaire difficile, de la solution de laquelle les sénateurs se jugent incapables. Il sera donc très rare que tous les patriciens soient convoqués à l'Assemblée. Le principal office de cette Assemblée suprême, nous l'avons dit, paragraphe 17 du chapitre précédent, est d'établir et d'abroger des lois, et ensuite de nommer les fonctionnaires de l'État. Mais les lois, celles du moins qui sont communes à tout l'État, une fois établies, ne doivent pas être changées. Si cependant les circonstances font qu'une nouvelle loi doivent être instituées, ou qu'il y ait lieu d'en modifier une existante. C'est dans le Sénat d'abord que cette question sera examinée. Et une fois que les sénateurs se seront mis d'accord, des émissaires seront envoyés par le Sénat lui-même aux différentes villes et ils exposeront aux patriciens de chaque ville l'opinion du Sénat. Si la majorité des villes s'y rallie, elle sera tenue pour adopter. Sinon, elle sera rejetée. On pourra conserver la procédure déjà décrite pour le choix du chef de l'armée et des ambassadeurs à envoyer à l'étranger, comme aussi concernant la décision de faire la guerre et les conditions de paix à accepter. Mais pour le choix des autres fonctionnaires de l'État, comme, d'après le paragraphe 4 de ce chapitre, chaque ville doit rester autonome, autant que faire se peut, et avoir dans l'État autant de droits, on procédera comme il suit. Les patriciens de chaque ville éliront des sénateurs, c'est-à-dire que leur assemblée désignera, pour siéger au Sénat, un certain nombre d'entre eux, qui devra être avec le nombre total des patriciens dans le rapport de 1 à 12. Voir le paragraphe 30 du chapitre précédent. Cette assemblée désignera aussi ceux qui feront partie de la première série, de la deuxième, de la troisième, etc. Ainsi, les patriciens de chaque ville, suivant son importance, nommeront un plus ou moins grand nombre de sénateurs et les répartiront en autant de séries que nous avons dit que le Sénat devait en comprendre. Voir le paragraphe 31 du chapitre précédent. Il arrivera ainsi que, dans chaque série, chacune des villes aura un nombre de représentants en rapport avec son importance. Quant aux présidents des séries et à leurs suppléants, dont le nombre est moindre que celui des villes, ils seront élus par le Sénat et par les consuls eux-mêmes, tirés au sort. On observera la même procédure pour l'élection des membres du tribunal suprême, c'est-à-dire il y aura pour chaque ville plus ou moins de patriciens désignés, suivant que la ville sera plus ou moins grande. Et de la sorte, chaque ville restera, autant que faire se peut, autonome dans le choix des fonctionnaires publics, et chacune aura d'autant plus de pouvoir dans le Sénat et dans le tribunal qu'elle sera plus puissante. Étant entendu que, dans les décisions à prendre sur les affaires publiques et dans le règlement des litiges, la procédure suivie sera précisément celle que nous avons exposée au paragraphe 33 et 34 du chapitre précédent. Paragraphe 7. Les chefs des cohortes et les tribuns militaires devront être pris dans le patriciat. Il est juste en effet que chaque ville soit tenue d'enrôler pour la sécurité de tout l'État un nombre de soldats en rapport avec son importance. Et il est juste, en conséquence, que les patriciens, suivant le nombre des légions qu'elles doivent nourrir, puissent nommer autant de tribuns militaires, d'officiers de tout grade et d'enseignes, etc., que l'exige l'organisation de cette partie de la force armée. Paragraphe 8. Il n'y aura pas d'impôt établi par le Sénat sur les sujets. Pour subvenir aux dépenses publiques décrétées par le Sénat, non les sujets, mais les villes seront taxées de façon que chacune supporte une charge plus ou moins grande selon son importance. Pour lever sur les habitants la somme à fournir, les patriciens de chaque ville procéderont comme ils voudront, soit par le moyen de taxation, soit, ce qui est beaucoup plus juste, en établissant des impôts. Paragraphe 9. En outre, bien que toutes les villes de l'État ne soient pas des ports de mer et que les villes maritimes ne soient pas les seules à nommer des sénateurs, les rétributions payées aux sénateurs pourront être celles que nous avons indiquées au paragraphe 31 du chapitre précédent. On pourra combiner à cet effet des mesures en rapport avec la constitution de l'État qui établiront entre les villes des liens de solidarité plus étroits. Pour toutes les autres dispositions concernant le Sénat, la Cour de justice et en général tout l'État, il y a lieu d'appliquer les règles énoncées dans le chapitre précédent. Nous voyons ainsi que dans un État constitué par plusieurs villes, il n'est pas nécessaire de convoquer l'Assemblée suprême dans un lieu et à une date fixe. Mais au Sénat et à la Cour de justice, il faut assigner comme siège un village ou une ville n'ayant pas le droit de suffrage. Je reviens maintenant à ce qui concerne les villes prises une à une. Paragraphe 10. La procédure suivie par l'Assemblée d'une ville pour l'élection des fonctionnaires de la ville et de l'État et pour prendre des décisions dans les affaires publiques sera celle que j'ai exposée dans les paragraphes 27 et 36 du chapitre précédent, car les conditions sont les mêmes. À cette assemblée devra être subordonné un conseil des syndics qui soutiendra avec elle le même rapport que les conseils des syndics dont nous avons parlé au chapitre précédent avec l'Assemblée générale de tout l'État. Son office sera le même dans les limites de la juridiction de la ville et il sera rétribué de la même façon. Si la ville, et en conséquence le nombre des patriciens, sont si petits que l'on ne puisse nommer qu'un syndic ou deux syndics ne pouvant à eux seuls former un conseil, des juges seront désignés pour connaître des affaires par l'Assemblée suprême de la ville. Ou bien l'affaire sera portée devant le Conseil suprême des syndics. De chaque ville, en effet, doivent être envoyés quelques syndics au lieu où siège le Sénat pour veiller à ce que les lois demeurent inviolées et pour siéger au Sénat sans prendre part au vote. Paragraphe 11. Les patriciens de chaque ville nommeront aussi des consuls qui formeront le Sénat de cette ville. Je ne puis en fixer le nombre et je ne le crois pas nécessaire, puisque les affaires de la ville qui sont d'un grand poids seront traitées par l'Assemblée suprême de la ville et que celles qui concernent tout l'État le seront par le Grand Sénat. Si d'ailleurs les consuls sont peu nombreux, il sera nécessaire qu'ils expriment leur avis publiquement dans leur conseil et non au moyen de boules comme dans les grandes assemblées. Dans les petites assemblées, en effet, où l'on use du scrutin secret, ceux qui ont un peu d'astuce arrivent toujours à connaître le vote de chacun de leurs collègues et à tromper de bien des façons ceux qui sont peu attentifs. Paragraphe 12. Dans chaque ville, c'est à l'Assemblée suprême à nommer les juges. Il sera permis toutefois d'en appeler au tribunal suprême de l'État, sauf quand il y aura flagrant délit ou aveu du coupable. Mais point n'est besoin de développer cela davantage. Paragraphe 13. Il reste à parler des villes qui n'ont point leur autonomie. Ces dernières, si elles sont dans une province ou une région de l'État, et que leurs habitants soient de même nation et parlent le même langage, doivent nécessairement, ainsi que les villages, être considérés comme des parties des villes voisines, de sorte que chacune doit être dans la dépendance de telle ou telle ville autonome. La cause en est que les patriciens ne sont pas élus par l'Assemblée suprême de l'État, mais par l'Assemblée de chaque ville, dont les membres sont plus ou moins nombreux, suivant le nombre des habitants compris dans la juridiction de cette ville, par le paragraphe 5 de ce chapitre. Il est ainsi nécessaire que la masse de la population d'une ville qui n'est pas autonome soit comprise dans le recensement d'une ville qui est autonome et dépende de cette dernière. Mais les villes conquises par la guerre et ajoutées à l'État doivent être considérés comme des alliés de l'État et attachés par des bienfaits, ou bien des colonies ayant droit de cité doivent y être envoyées et la population qui l'habitait doit être transportée ailleurs ou exterminée. Paragraphe 14. Tels sont les principes fondamentaux de cette sorte d'État. Que sa condition soit meilleure que celle de l'État tirant son nom d'une ville unique, je le conclus de ce que les patriciens de chaque ville, par un désir naturel à l'homme, s'efforceront de maintenir leurs droits et dans leur ville et au Sénat, de l'augmenter même s'ils le peuvent. Ils tâcheront en conséquence d'attirer à eux la masse de la population, d'exercer le pouvoir plutôt par des bienfaits que par la crainte et d'augmenter leur propre nombre, car plus ils seront nombreux, plus, par le paragraphe 6 de ce chapitre, ils éliront de sénateurs, et plus aussi ils auront du pouvoir dans l'État, même paragraphe. Il ne faut pas objecter que chaque ville, veillant à ses propres intérêts et jalousant les autres, il y aura souvent des discordes entre elles, et que du temps sera perdu en discussion. Car si, tandis que les Romains délibèrent, Sagonte périt, au contraire, quand des hommes en petit nombre décident de tout selon leur propre affection, c'est la liberté, c'est le bien commun qui périt. L'esprit des hommes, en effet, est trop obtus pour pouvoir tout pénétrer d'un coup. Mais en délibérant, en écoutant et en discutant, ils s'aiguisent, et à force de tâtonner, les hommes finissent par trouver la solution qu'ils cherchaient, et qui a l'approbation de tous, sans que personne s'en fût d'abord avisé. Objectera-t-on que l'État de Hollande n'eût pas subsisté longtemps sans un comte ou un représentant du comte tenant sa place? Je réponds que pour garder leur liberté, les Hollandais ont jugé suffisant de laisser là leur comte et de priver l'État de sa tête. Ils n'ont cependant pas pensé à le réformer, mais ont laissé subsister toutes les parties telles qu'elles étaient, de sorte que le comté de Hollande est demeuré sans compte et l'État lui-même sans nom. Rien d'étonnant à cela, les sujets ignorant pour la plupart à qui appartenait la souveraineté. Même s'il n'en avait pas été ainsi, ceux qui détenaient le pouvoir en réalité étaient bien trop peu nombreux pour gouverner la masse et écraser leurs puissants adversaires. Ainsi, est-il arrivé que ces derniers ont pu comploter contre eux, impuissants, et finalement les renverser. Cette révolution subite n'est pas venue de ce qu'on employait trop de temps dans les délibérations, mais de la constitution défectueuse de l'État et du petit nombre des gouvernants. Paragraphe 15. Cet État aristocratique, où le pouvoir se partage entre plusieurs villes, est encore préférable parce qu'il n'y a pas à craindre, comme dans l'autre, que l'Assemblée suprême soit brusquement assaillie et détruite, puisque, par le paragraphe 9 de ce chapitre, elle n'est pas convoquée en un lieu et à une date fixe. Les citoyens puissants sont en outre moins à craindre dans cet État. Où plusieurs villes jouissent de la liberté, il ne suffit pas à celui qui tente d'usurper le pouvoir de s'emparer d'une ville unique pour être le maître partout. La liberté, enfin, dans cet État, est un bien commun à un plus grand nombre, car où règne la ville unique, il n'est pris soin du bien des autres que dans la mesure où cela convient à la ville régnante. Chapitre 10. Après avoir exposé les principes fondamentaux des deux types d'États aristocratiques, reste à rechercher s'il existe quelque cause intérieure pouvant amener la dissolution de pareil régime ou sa transformation. La première cause possible de dissolution est celle qu'observe le très pénétrant Florentin Machiavel, dans son premier discours sur le troisième livre de Tite-Live. Dans un État, tous les jours, comme dans le corps humain, il y a certains éléments qui s'adjoignent aux autres et dont la présence requiert de temps à autre un traitement médical. Il est donc nécessaire, dit-il, que parfois, une intervention ramène l'État aux principes sur lesquels il est fondé. Si cette intervention fait défaut, le mal ira en croissant à ce point qu'il ne pourra plus être supprimé, sinon par la suppression de l'État lui-même. Cette intervention, ajoute-t-il, peut ou bien se produire par hasard ou grâce à une législation prudente, ou enfin grâce à la sagesse d'un homme d'une vertu exceptionnelle. Et nous ne pouvons douter que ce ne soit là une circonstance du plus grand poids. Et s'il n'est pas porté de remède au mal, l'État ne pourra plus se maintenir par sa vertu propre, mais seulement par une fortune heureuse. Au contraire, si le remède convenable est appliqué, la chute de l'État ne pourra pas être l'effet d'un vice intérieur, mais d'un destin inéluctable, ainsi que nous le montrerons bientôt. Le premier remède qui se présentait à l'esprit était que, tous les 5 ans, un dictateur suprême fût créé pour 1 mois ou 2. Dictateur ayant le droit d'ouvrir une enquête sur les actes des sénateurs et de tous les fonctionnaires, de les juger, de prendre des décisions et par suite de ramener l'État à son principe. Mais pour parer aux maux qui menacent un État, il faut appliquer des remèdes s'accordant avec sa nature et pouvant se tirer de ses propres principes. Autrement, l'on tombe de Charybde en Scylla. Il est vrai que tous, aussi bien les gouvernants que les gouvernés, doivent être retenus par la crainte des supplices et du mal qu'ils pourraient souffrir, afin qu'ils ne puissent commettre des crimes impunément ou avec profit. Et d'autre part, si cette crainte affecte également les bons citoyens et les mauvais, l'État se trouve dans le plus grand péril. Le pouvoir du dictateur étant absolu, il ne peut pas ne pas être redoutable à tous, surtout si, comme il est requis, un dictateur est nommé à date fixe, parce qu'alors chacun, par amour de la gloire, briguera cet honneur avec une ardeur extrême. Et il est certain aussi qu'en temps de paix, on a égard moins à la vertu qu'à l'opulence. De sorte que, plus un homme aura de superbe, plus facilement il s'élèvera aux honneurs. Peut-être Est-ce la raison pour laquelle les Romains ne nommaient pas de dictateurs à date fixe, mais quand une nécessité fortuite les y contraignait? Et néanmoins, le bruit d'une dictature, pour citer le mot de Cicéron, était désagréable aux bons citoyens. Et certes, puisque le pouvoir d'un dictateur, comme celui d'un roi, est absolu, il peut, non sans grand danger pour la République, se changer en un pouvoir monarchique, ne fût-ce que temporairement. Ajoutez que si nulle date fixe n'est indiquée pour la nomination d'un dictateur, il n'y aura pas, entre deux dictatures successives, cet intervalle de temps que nous avons dit qu'il importait de maintenir. Et l'institution elle-même aurait si peu de fixité qu'elle tomberait facilement dans l'oubli. Si cette dictature n'est pas perpétuelle et stable, si elle n'est pas dévolue à un seul homme, ce qui ne peut se concilier avec le maintien du régime aristocratique, elle sera incertaine et, avec elle, le statut de la République mal assuré. Paragraphe 2. Il n'est pas douteux, au contraire, par le paragraphe 3 du chapitre 6, que si, maintenant la forme de l'État, le glaive du dictateur pouvait se dresser perpétuellement et être redoutable seulement aux méchants, jamais le mal ne s'aggraverait au point qu'il ne peut être supprimé ou redressé. C'est pour satisfaire à ces conditions que nous avons subordonné à l'Assemblée générale un conseil des syndics, de façon que le glaive perpétuel ne soit pas au pouvoir d'une personne naturelle, mais d'une personne civile, dont les membres sont trop nombreux pour qu'ils puissent se partager l'État, par les paragraphes 1 et 2 du chapitre 8, ou s'accorder pour un crime. À quoi s'ajoute qu'il leur est interdit d'occuper les autres charges de l'État, qu'ils ne paient pas de solde à la force armée, et enfin sont d'un âge où l'on préfère un état de choses existant et sûr à des nouveautés dangereuses. Ils ne menacent donc l'État d'aucun danger, ne peuvent être et ne seront effectivement redoutables qu'aux seuls méchants et non aux bons. Sans force pour commettre des crimes, ils auront assez de puissance pour réfréner les tentatives criminelles. Outre que, en effet, ils peuvent s'opposer au mal dans son germe, parce que leur conseil est perpétuel. Ils sont assez nombreux pour ne pas craindre d'inspirer de la haine à un puissant ou à deux, en les accusant et les condamnant, étant donné surtout qu'ils expriment leur avis par des boules et que la sentence est prononcée au nom de tout le conseil. Paragraphe 3. Les tribuns du peuple étaient ainsi perpétuels à Rome, mais incapables de triompher de la puissance d'un Scipion. Il devait en outre soumettre au Sénat lui-même les mesures qu'il jugeait salutaires. Et souvent, ils étaient joués par lui, le Sénat s'arrangeant pour que la faveur de la plèbe allât à celui que les sénateurs craignaient le moins. À quoi s'ajoute que toute la force des tribuns contre les patriciens reposait sur la faveur du peuple, et que, lorsqu'ils faisaient appel à la plèbe, il semblait plutôt émouvoir une sédition que convoquer une assemblée. Dans un état comme celui que nous avons décrit dans les deux chapitres précédents, pareil inconvénient ne se produira pas. Paragraphe 4. Toutefois, cette autorité des syndics pourra faire seulement que la forme de l'État se maintienne, empêcher que les lois ne soient violées et que qui que ce soit ne tire profit d'une action criminelle. Elle ne pourra empêcher que ne s'infiltrent des vices comme ceux où tombent les hommes jouissant de grands loisirs, vices qui fréquemment causent la ruine de l'État. Les hommes, une fois affranchis de la crainte par la paix, deviennent peu à peu de sauvages et barbares qu'ils étaient des êtres civilisés et humains, et de là, tombent dans la mollesse et la paresse. Ils ne cherchent plus à l'emporter les uns sur les autres par la vertu, mais par le faste et le luxe. Ils prennent en dégoût les mœurs de leur patrie et en adoptent d'étrangères, c'est-à-dire qu'ils commencent à être esclaves. Paragraphe 5. Pour parer à ce mal, on a souvent tenté d'édicter des lois somptuaires, mais en vain, car toutes les règles qui peuvent être violées, sans que d'autres soient lésées, sont un objet de dérision. Tant s'en faut que ces règles modèrent les désirs et les appétits. Au contraire, elles leur donnent plus d'intensité, car nous avons une inclination pour ce qui est défendu et désirons ce qui nous est refusé. Des hommes oisifs ont toujours assez de ressources dans l'esprit pour éluder les règles établies sur des objets dont l'interdiction absolue n'est pas possible, tels les festins, les jeux, la parure et autres choses du même genre dont seul l'abus est mauvais et ne peut s'apprécier que suivant la fortune, de sorte qu'on ne peut faire de loi générale en pareille matière. Paragraphe 6. Ma conclusion donc est que ces vices inhérents à l'état de paix dont nous parlons ici ne doivent pas être combattus directement, mais indirectement, en posant des principes fondamentaux tels que le plus grand nombre s'efforce non de vivre sagement, cela est impossible, mais se laisse diriger par les affections dont l'état tire le plus de bénéfices. Il nous faut tendre surtout à ce que les riches soient, sinon économes, du moins désireux d'augmenter leur richesse. Car il n'est pas douteux que si cette avidité, qui est une passion universelle et constante, est alimentée par le désir de la gloire, la plupart s'appliqueront avec le plus grand zèle à augmenter, sans user de moyens déshonorants, la voie par où ils peuvent prétendre à la considération et éviter la honte. Paragraphe 7. Si nous considérons les principes fondamentaux des deux états aristocratiques décrits dans les deux chapitres précédents, nous verrons que cela même en est une conséquence. Le nombre des gouvernants dans l'un et dans l'autre est assez grand pour que la majorité des riches ait accès au gouvernement et aux hautes charges de l'État. S'il est décidé, en outre, comme nous l'avons dit, au paragraphe 47 du chapitre 8, que les patriciens insolvables seront considérés comme déchus et que ceux qui auront perdu leurs biens par suite d'un malheur seront rétablis dans leur situation, il n'est pas douteux que tous, autant qu'ils le pourront, tâcheront de conserver leur avoir. Ils ne voudront pas vivre à la manière des étrangers et ne prendront pas en mépris les coutumes de la patrie s'il est établi que les patriciens et les candidats aux charges publiques se distinguent par un vêtement particulier. Voir sur ce point les paragraphes 25 et 47 du chapitre 8. L'on peut, en tout état, trouver d'autres dispositions en accord avec la nature des lieux et le caractère de la nation, et en pareille matière, il faut veiller avant tout à ce que les sujets s'y conforment de leur propre gré, plutôt que par l'effet d'une contrainte légale. Paragraphe 8. Dans un État qui vise uniquement à conduire les hommes par la crainte, c'est plutôt l'absence de vice que la vertu qui règne. Mais il faut mener les hommes de telle façon qu'ils ne croient pas être menés, mais vivre selon leur libre décret et conformément à leur complexion propre. Il faut donc les tenir par le seul amour de la liberté, le désir d'accroître leur fortune et l'espoir de s'élever aux honneurs. Les statues, d'ailleurs, les cortèges triomphaux et les autres excitants à la vertu sont des marques de servitude plutôt que des marques de liberté. C'est aux esclaves, non aux hommes libres, qu'on donne des récompenses pour leur bonne conduite. Je reconnais que les hommes sont très sensibles à ces stimulants. Mais si à l'origine, on décerne les récompenses honorifiques aux grands hommes, plus tard, l'envie croissant, c'est aux paresseux et à ceux que gonfle l'orgueil de leur richesse, à la grande indignation de tous les bons citoyens. En outre, ceux qui étalent les statues et les triomphes de leurs parents croient qu'on leur fait injure si on ne les met pas au-dessus des autres. Enfin, pour me taire du reste, il est évident que l'égalité, dont la perte entraîne nécessairement la ruine de la liberté commune, ne peut être maintenue sitôt que des honneurs extraordinaires sont décernés par une loi de l'État à un homme qui se distingue par son mérite. Paragraphe 9. Cela posé, voyons maintenant si des États de la sorte décrite peuvent, par quelque cause, tenant à eux-mêmes, être détruits. Si un État, cependant, peut se perpétuer, ce sera nécessairement celui dont les lois, une fois bien établies, demeurent inviolées. Car les lois sont l'âme de l'État. Aussi longtemps qu'elles demeurent, l'État subsiste, nécessairement. Mais les lois ne peuvent demeurer inviolées si elles ne sont sous la protection et de la raison et des affections communes aux hommes. Autrement, je veux dire, si elles n'ont que l'appui de la raison, elles sont peu valides et on en vient aisément à bout. Puis donc, que nous avons montré que les lois fondamentales des deux sortes d'États aristocratiques s'accordent avec les affections des hommes, nous pouvons affirmer que s'il y a des États capables de subsister toujours, ce sont ceux-là, et que s'ils peuvent être détruits, ce n'est pas par une cause tenant à quelques défauts propres, mais à un destin inéluctable. Paragraphe 10. On peut nous objecter que bien qu'elles soient sous la protection de la raison et des affections communes, ces lois de l'État précédemment exposées ne sont cependant pas si solides que nul ne puisse en venir à bout. Car il n'est pas d'affection qui ne puisse être vaincue par une affection contraire. La crainte de la mort est visiblement vaincue souvent par l'appétit du bien d'autrui. Ceux qui sont épouvantés par l'ennemi, nulle autre crainte ne peut les arrêter. Ils se jettent à l'eau, se précipitent dans le feu pour échapper aux fers de l'ennemi. Quelque bien réglée que soit la cité, si excellente que soient ses institutions, dans les moments de détresse, quand tous, comme il arrive, sont pris de terreur panique, tous alors se rendent au seul parti dont s'accommode la crainte, sans se soucier ni de l'avenir ni des lois. Tous les visages se tournent vers l'homme que des victoires ont mis en lumière. On le place au-dessus des lois. On prolonge son pouvoir, le pire des exemples. On lui confie toute la chose publique. C'est là ce qui causa la perte de l'État romain. Pour répondre à cette objection, je dis en premier lieu que dans une république bien constituée, semblable terreur n'apparaît jamais, sinon pour une juste cause. Que pareille terreur, pareil trouble ne peuvent être dus qu'à une cause contre laquelle toute prudence humaine est impuissante. En second lieu, il faut l'observer dans une république telle que celle que nous avons décrite, il ne peut arriver, par les paragraphes 9 et 25 du chapitre 8, qu'un seul homme ou deux ait un renom si éclatant que tous se tournent vers lui. Ils auront nécessairement plusieurs émules, ayant un certain nombre de partisans. Quand bien même, donc, la terreur engendrerait quelques troubles dans la République, nul ne pourra, au mépris des lois et contrairement au droit, appeler un sauveur au commandement des troupes sans qu'aussitôt il y ait compétition entre celui qui aura été proposé et d'autres que leurs partisans réclameront. Pour régler l'affaire, il faudra nécessairement revenir aux lois établies acceptée par tous, et ordonner les affaires de l'État comme elles le prescrivent. Je puis donc affirmer sans réserve que l'État, où une ville unique a le pouvoir, et encore plus un État où plusieurs villes se le partagent, durera toujours, c'est-à-dire qu'il ne se dissoudra ni ne se transformera pour aucune cause intérieure à lui. Chapitre 11. Paragraphe 1. Je passe maintenant au troisième État, celui qui est du tout absolu et que nous appelons démocratique. La différence entre cet État et l'aristocratique consiste principalement, nous l'avons dit, en ce que dans ce dernier, il dépend de la seule volonté et du libre choix de l'Assemblée suprême que tel ou tel devienne patricien. Nul n'a donc héréditairement le droit de suffrage et celui d'accéder aux fonctions publiques. Nul ne peut revendiquer ses droits comme c'est le cas dans une démocratie. Tous ceux en effet qui sont nés de parents, jouissant des droits civiques ou sur le territoire national, ou ont bien mérité de la République, ou, pour d'autres causes encore, possèdent légalement le droit de cité, tous, je le répète, ont le droit de suffrage et accès aux fonctions publiques. Ils sont fondés à les réclamer et on ne peut leur dénier, sinon parce qu'ils se sont rendus coupables d'un crime ou sont notés d'infamie. Paragraphe 2. Si donc seuls les hommes d'un certain âge ou les premiers-nés une fois atteints l'âge légal ou ceux qui payent une certaine contribution à l'État ont le droit de suffrage dans l'Assemblée suprême et celui de traiter les affaires publiques, alors même qu'il arriverait que l'Assemblée suprême, en vertu de ses dispositions, comprît moins de membres que celles de l'État aristocratique décrit ci-dessus, l'État n'en devrait pas moins être appelé démocratique, puisque les hommes appelés au gouvernement ne seraient pas choisis par l'Assemblée suprême comme étant les meilleurs, mais tiendraient leur pouvoir de la loi. Et bien que, de cette façon, un État où ce ne sont pas les meilleurs, mais ceux qui, par une heureuse fortune, sont riches ou sont le premier-né qui sont appelés à gouverner, paraissent inférieurs à un État aristocratique, si nous considérons comment les choses vont, en fait, cela revient au même. Pour les patriciens, en effet, les meilleurs sont toujours les riches ou ceux qui leur sont apparentés ou qui sont leurs amis. Certes, si les choses étaient telles que, dans le choix de leurs collègues, les patriciens fussent libres de toute affection commune et dirigés par le seul souci du salut public, nul régime ne serait comparable à l'aristocratique. Mais l'expérience l'enseigne assez, et même trop, la réalité est tout autre, surtout dans les oligarchies où la volonté des patriciens s'affranchit le plus de la loi à cause du manque de compétitivité. Là, en effet, les patriciens écartent studieusement de l'Assemblée les plus méritants et cherchent à s'associer ceux qui sont dans leur dépendance, de sorte que, dans un état pareil, les choses vont beaucoup plus mal parce que le choix des patriciens dépend de la volonté arbitraire absolue, affranchie de toute loi, de quelques-uns. Paragraphe 3. Par ce qui précède, il est manifeste que nous pouvons concevoir divers genres de démocratie. Mon dessein n'est pas de parler de tous, mais de m'en tenir au régime où tous ceux qui sont régis par les seules lois du pays ne sont point sous la domination d'un autre et vivent honorablement, possèdent le droit de suffrage dans l'Assemblée suprême et ont accès aux charges publiques. Je dis expressément qui sont régis par les seules lois du pays pour exclure les étrangers sujets d'un autre État. J'ai ajouté à ces mots qui ne sont pas sous la domination d'un autre, pour exclure les femmes et les serviteurs qui sont sous l'autorité de leur mari et de leur maître, les enfants et les pupilles qui sont sous l'autorité des parents et des tuteurs. J'ai dit enfin, qui ont une vie honorable, pour exclure ceux qui sont notés d'infamie à cause d'un crime ou d'un genre de vie déshonorant. Paragraphe 4. Peut-être demandera-t-on si les femmes sont par nature ou par institution sous l'autorité des hommes. Si c'est par institution, nulle raison ne nous obligeait à exclure les femmes du gouvernement. Si toutefois nous faisons appel à l'expérience, nous verrons que cela vient de leur faiblesse. Nulle part sur la terre, hommes et femmes n'ont régné de concert. Mais partout où il se trouve des hommes et des femmes, nous voyons que les hommes règnent et que les femmes sont régies, et que de cette façon, les deux sexes vivent en bonne harmonie. Les Amazones, au contraire, qui, suivant une tradition, ont régné jadis, ne souffraient pas que des hommes demeurassent sur leur territoire, ne nourrissaient que les individus du sexe féminin, et tuaient les mâles qu'elles avaient engendrés. Si les femmes étaient par nature les égales des hommes, si elles avaient au même degré la force d'âme et les qualités d'esprit qui sont dans l'espèce humaine, les éléments de la puissance et conséquemment du droit, certes parmi tant de nations différentes, il ne pourrait ne pas s'en trouver où les deux sexes se règnent également, et d'autres où les hommes seraient régis par les femmes et recevraient une éducation propre à restreindre leurs qualités d'esprit. Mais cela ne s'est vu nulle part. Et l'on peut affirmer en conséquence que la femme n'est pas par nature l'égale de l'homme et aussi qu'il est impossible que les deux sexes règnent également, encore bien moins que les hommes soient régis par les femmes. Que si en outre on considère les affections humaines, si l'on reconnaît que la plupart du temps l'amour des hommes pour les femmes n'a pas d'autre origine que l'appétit sensuel, qu'ils n'apprécient en elles les qualités d'esprit et la sagesse qu'autant qu'elles ont de la beauté, qu'ils ne souffrent pas que les femmes aimées aient des préférences pour d'autres qu'eux, et autres faits du même genre, on verra sans peine qu'on ne pourrait instituer le règne égal des hommes et des femmes sans grand dommage pour la paix. Mais assez sur ce point. La suite manque.